Bien, bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous retrouver. Le thème de cet après-midi, c'est donc une église triomphante. Et les deux textes qui viennent de nous être lus, vont nous permettre de trouver les éléments qui rendent une église rayonnante. La première des choses que nous devons dire, c'est que une église rayonnante, c'est le vœu de Dieu pour chacune de ses églises. Chacune de ses églises locales, bien entendu. D'une manière générale, c'est le vœu de Dieu que l'église, donc dans le sens universel du terme, eh bien, soit rayonnante. Si Dieu veut que l'église soit rayonnante, c'est aussi pour que chacun d'entre nous, dans nos vies, nous soyons rayonnants. Puisque l'Église, c'est chacun d'entre nous, les pierres vivantes, hein, et nous sommes concernés à titre individuel et évidemment à titre communautaire. Une Église rayonnante, d'après ces deux textes, doit avoir des relations à l'intérieur, c'est-à-dire elle doit entretenir et développer une vie intérieure, mais aussi une vie de témoignage à l'extérieur de ses murs, de sa vie propre. Il ne faut pas que l'Église s'enferme dans l'une ou dans l'autre aspect, dans l'un ou dans l'autre aspect, mais elle doit s'efforcer de trouver un équilibre entre vie intérieure et vie extérieure. Ce qui est aussi valable pour chacun d'entre nous. Nous devons entretenir une vie intérieure avec Dieu, c'est ce qu'on appelle couramment le culte personnel, notre intimité avec Dieu, qui naturellement va rejaillir sur l'extérieur. On ne peut pas être relié à la source de toute vie, de tout rayonnement, qui est la personne de Dieu, sans que naturellement, eh bien, cela se manifeste vers le monde extérieur. Et évidemment, vers le monde intérieur, l'Église, puisque vous et moi, chacun d'entre nous, nous nous encourageons les uns les autres, ne serait-ce que par notre présence. Ne serait-ce que par les prières qui peuvent s'élever de nos cœurs, qui encouragent les frères et les sœurs qui les entendent et qui aussi peuvent convaincre de péché, de justice et de jugement par le Saint-Esprit, les non-chrétiens qui viendraient au milieu de nous. Il y a donc quatre grandes dimensions dans la vie d'une Église, selon les Saintes Écritures. La première dimension, c'est celle que nous sommes en train d'accomplir. C'est ce qu'on appelle la dimension liturgique, c'est le fait de rendre un culte à Dieu. La première des choses que l'Église est appelée à faire, c'est de rendre un culte à notre Créateur, à notre Sauveur. L'Église étant le peuple de Dieu, hein, puisque nous avons lu, vous êtes une race élue, un saint sacerdoce, automatiquement, la première dévotion, si je puis dire, la première action va se tourner vers Dieu. C'est pour cela qu'il est dit en 1 Pierre chapitre 2, verset 4, « Approchez-vous de lui », donc sous-entendu de Jésus-Christ, qui a été une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Donc naturellement, notre culte va se tourner vers le Seigneur. La première des choses, c'est s'approcher de Dieu. C'est le rôle, entre autres, d'un culte communautaire. Mais c'est aussi indispensable dans notre vie personnelle, de chercher Dieu, s'approcher de lui, pour qu'il puisse nous façonner, nous conduire, nous guider, nous remplir, nous encourager et faire de nous donc des serviteurs selon sa volonté. La deuxième dimension, c'est la dimension de l'annonce de l'Évangile, en grec le kérigma, l'annonce, la proclamation de l'Évangile. C'est l'Évangile qui nous fait connaître l'amour de Dieu, et par voie de conséquence, nous devons le faire connaître, ou faire connaître cet amour en faisant connaître donc cet Évangile. Et nous avons, vous et moi, cette responsabilité. Vous savez que Paul a dit la première aux Corinthiens, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et le terme grec est utilisé par le kérigme de la prédication. C'est-à-dire, il est important non seulement de rendre témoignage, mais aussi d'apporter des éléments des Saintes Écritures, le contenu de l'Évangile. Il nous faut réfléchir à cela, parce qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc, quand on cherche à savoir comment on doit évangéliser, évidemment, on donne son témoignage, et il y a toutes sortes de façons de partager notre joie en Christ et notre relation avec Dieu, mais à un moment donné, on est bien obligé d'annoncer quelques éléments de la parole de Dieu, parce que c'est l'épée du Saint-Esprit et c'est la parole de Dieu qui convainc. C'est pas simplement tout ce qu'on pourrait rapporter ou faire. La parole de Dieu a un rôle, cette semence incorruptible, elle est capable de traverser telle une épée, conscience, donc jointure et moelle, âme et esprit, c'est la parole. Et on ne peut pas se priver, nous en tant que chrétiens, d'annoncer, de prononcer, de faire lire ce qui est contenu dans les Saintes Écritures, cette parole de Dieu. Ça c'est la deuxième dimension, rendre un culte et annoncer l'Évangile, le partager. Ensuite, il y a la dimension de la communion. En grec, c'est la dimension koinoniane, c'est la communion. Alors, pourquoi ? Parce que l'annonce, rendre un culte à Dieu, annoncer l'Évangile, les gens nous regardent vivre. Et il faut bien que ces deux premiers piliers se retrouvent dans une dimension sociale, relationnelle. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils disent ? C'est bien beau, tu parles toujours, mais c'est ta vie, qu'est-ce que c'est ? Alors les gens vont nous regarder dans le monde du travail, à l'université, dans la famille, les voisins, etc. vont nous regarder, on est chrétiens. Donc ils vont essayer de voir si ce que l'on dit, on le vit. Si ce que l'on partage est en correspondance avec notre comportement. Et en tant qu'église, ce corps de pierre vivante, ce groupe humain, mis à part par Dieu, eh bien, il a ce corps a la même fonction. C'est pour ça que Jésus a pu dire dans l'évangile de Jean, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'ils verront que vous m'appartenez. Et donc ça, c'est le témoignage concret. C'est plus simplement verbal, c'est concret. Et c'est pour cela qu'il nous est demandé, avant tout, 1 Pierre chapitre 4 verset 8, avant tout, aimez-vous de tout votre cœur. Donc c'est pas simplement une idée comme ça, oui, on s'aime, non, c'est véritablement un engagement. Nous sommes invités, c'est une forme d'impératif, hein. Avant tout, aimez-vous de tout votre cœur. Ce qui, du coup, entraîne ce qu'on appelle une attitude authentique. Je suis assez surpris de trouver dans l'épître de Pierre, mais aussi dans l'ensemble des épîtres, des mots qui, à mon avis, sont surprenants quand on les trouve ensemble. Par exemple, que votre amour soit sans hypocrisie dans l'épître aux Romains. Amour, hypocrisie, c'est quand même deux choses tellement diamétralement opposées qu'on se dit, mais pourquoi l'apôtre, le Saint-Esprit insiste-t-il au travers de l'apôtre pour nous rappeler cela? Là, l'apôtre Pierre dit, lorsque vous faites de l'hospitalité, ce soit sans murmure. Alors c'est comme si vous m'invitiez chez vous et puis que dans votre cuisine vous disiez oh, gens pratiques parce qu'on est obligé de faire des plats. Vous voyez, il y a un paradoxe là. Mais pourquoi? Parce que naturellement ceux qui sont nés de nouveau sont capables de ces deux pensées, c'est-à-dire inviter et en même temps trouver à redire, dire qu'on aime et en même temps avoir des attitudes hypocrites. L'apôtre Jacques dans son épître, lui va, dans tout un chapitre, il va conclure son chapitre en disant on ne peut pas d'un côté bénir avec notre langue, notre bouche, et puis maudire. Et il va prendre entre autres l'exemple de la source. Une source donne-t-elle de l'eau pure et de l'eau souillée? Non. Ou c'est une source qui est pure, ou c'est une source qui est souillée. Mais pourquoi il nous dit cela? Parce que moi je connais des chrétiens qui sont capables de faire du bien à d'autres chrétiens et qui sont en même temps capables de faire du mal à d'autres chrétiens. Vous voyez, c'est invraisemblable quand on y pense et qu'on veut bien, approfondir notre comportement. Mais on ne peut pas faire du bien à certains puis faire du mal à d'autres. Et c'est aimez-vous ardemment, c'est prendre conscience de cette double nature en quelque sorte, de ces capacités déplaisantes qui nous habitent et qui nous amènent à être aimables et serviables avec certains et à ne plus l'être avec d'autres. Et c'est cela que les Saintes Écritures dénoncent épître après épître, évangile après évangile. On peut pas avoir deux manières d'être. Et ça demande un véritable travail du Saint-Esprit dans nos cœurs, mais ça demande aussi une réflexion personnelle, c'est-à-dire s'interdire certains comportements que Paul va décrire dans l'Épître aux Galates chapitre 5 comme étant soit les fruits de l'esprit, soit les fruits de la chair. Je veux dire, quand les fruits de la chair viennent traverser nos pensées et sont capables de nous entraîner dans des comportements opposés aux fruits de l'esprit, il faut être conscient. Il faut se dire à soi-même, non, je ne veux pas faire ça. Parce que s'aimer ardemment, c'est pas simplement un espèce de sentiment de dire j'aime mes frères, j'aime mes sœurs. L'amour authentique se manifeste de manière concrète, par l'absence justement de médisance, de calomnie, qui est une chose dénoncée pratiquement dans toutes les épîtres. Donc vous voyez, le comportement chrétien, ce n'est pas un comportement sans une réflexion profonde, afin qu'on vienne devant Dieu et qu'on lui dise, Seigneur, moi je profondément je veux vivre autre chose. Je sais que je suis capable de mauvaises pensées, etc. Mais Seigneur, je veux vivre autre chose. Et c'est autant il faut être ardent dans l'amour, autant il faut être ardent dans la prière pour que Dieu puisse intervenir et nous transformer. Et c'est pour ça que l'apôtre va dire dans l'Épître aux Corinthiens que nous faisons notre sanctification, nous la développons, nous marchons de progrès en progrès. Mais c'est surtout dans ces domaines-là qu'il faut veiller. Parce que cette dimension de la communion ne souffre pas une hypocrisie. C'est dans la famille de Dieu, l'authenticité des relations humaines doivent s'exprimer par l'amour, la chaleur, le respect. Avant tout, aimez-vous de tout votre cœur, dira Pierre dans son chapitre 4, verset 8. Si les personnes vivent ces relations vraies, alors elles pourront être réceptives et percevoir l'enseignement. C'est-à-dire que nous-mêmes, si nous décidons à être authentiques, il y a des choses qu'on va comprendre dans les Saintes Écritures qu'on ne peut pas comprendre avant. Parce que si on n'est pas vraiment décidé à ce que Dieu fasse ce qu'il désire dans nos vies, il y a des choses qui vont nous être en quelque sorte retirées, qui ne vont pas nous être données par Dieu. Dieu donne à celui qui l'honore. Dieu honore ceux qui l'honorent, dit le premier livre de Samuel. Et c'est très important, si on veut honorer Dieu par une recherche de qualité morale et spirituelle, alors Dieu va déverser abondamment sur nous toutes sortes de connaissances, de compréhensions, dans notre culte personnel et aussi dans les cultes de l'Église, les cultes communautaires. Il y a des choses que Dieu va nous révéler dans le face-à-face avec lui, dans le secret de notre chambre, dans le secret de nos cœurs, et des choses qu'on n'apprendra jamais dans un autre lieu que celui-là. Et puis il y a des choses qu'on va apprendre dans l'Église et qu'on n'apprendra jamais ailleurs. Et c'est ça, cet équilibre, justement, d'avoir une relation intime avec Dieu à titre personnel et d'avoir une relation authentique et forte à titre communautaire. Parce que ces deux sources-là, ce silence, ce face-à-face avec Dieu, et cette relation au travers de la communauté chrétienne, eh bien Dieu nourrit ceux qui se décident à aller dans ce sens, et puis déverse ses grâces et son intelligence dans nos cœurs. Et puis tout cela doit déboucher sur cette dimension qui s'appelle le diaconat, c'est-à-dire le service, les dons que Dieu nous a donnés. Il dit en 1 Pierre chapitre 4 verset 10, « Mettez-vous au service des autres selon le don que chacun a reçu. » Et puis au verset 11, « Celui qui sert doit servir avec la force que Dieu lui donne. » Donc c'est très intéressant parce que dans ces deux versets, on a les deux aspects. On sert la communauté au travers du don que Dieu nous a donné, Mais le don que Dieu nous a donné, on puise les forces pour l'exercer auprès du donateur, c'est-à-dire de Dieu lui-même. Celui qui sert doit servir avec la force que Dieu lui donne. C'est une phrase avec un contenu extrêmement profond. On n'est pas en train de servir Dieu simplement selon notre pensée, notre volonté, selon nos capacités. On sert Dieu d'une manière spirituelle, c'est-à-dire étant soumis à Dieu, veillant à rester dans la simplicité, dans l'humilité devant Dieu, étant conscient que ces dons viennent de Dieu, et ce n'est pas nous qui les avons parce que nous sommes des êtres particuliers, mais c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et du coup, ça nous évite aussi d'envier des dons que Dieu ne nous aurait pas donnés. C'est aussi étonnant de voir dans les Saintes Écritures cette jalousie qu'il peut y avoir à l'intérieur d'une église, parce que certains ont des dons et les autres n'ont pas, mais ils en ont d'autres. Et puis on aimerait toujours avoir les dons que les autres ont, et on oublie de voir ses propres dons. C'est une attitude de simplicité, de dépendance, d'humilité, d'accepter les dons que Dieu nous donne. Et il y a des dons que nous n'aurons jamais. Mais fort heureusement, c'est les autres qui les ont dans l'Église. Et ça, c'est une joie, parce qu'on se réjouit de voir les autres accomplir cette volonté de Dieu dans la puissance du Seigneur, et puis on se satisfait de ce que Dieu nous a donné. Et il n'y a là ni orgueil, et ni amoindrissement de notre propre identité. Vous savez, il y a des chrétiens, ils disent « Ah, j'ai pas eu ce don-là », ils sont assez négatifs. Mais l'enseignement biblique nous donne cet équilibre. On n'est pas déçu par ce que Dieu nous a donné, et en même temps, on tombe pas dans l'orgueil. Ça va? Vous voyez? C'est formidable, la sagesse de Dieu et ce que Dieu veut exercer dans nos vies. Pourquoi est-ce que le commandement « Ayez un amour ardent » est indiqué? C'est parce que, évidemment, l'amour mobilise l'être tout entier, notre personne tout entière, et l'amour, c'est un état d'esprit. C'est pas simplement un sentiment. On peut ressentir, et heureusement on ressent de l'affection les uns pour les autres, mais quand les choses se développent autrement que ce qu'on pensait, c'est l'état d'esprit, la volonté d'aimer qui va nous permettre de supporter de la souffrance, l'amertume, etc. Vous savez que dans un mariage, ce qui est le plus important, c'est pas l'amour, c'est la fidélité. On construit sa vie, cette alliance du mariage, à l'image de Dieu. Dieu nous a aimés et il est fidèle dans son alliance. Et ce qui va résister à la difficulté, à la fatigue, au découragement, c'est pas l'amour, parce que l'amour, il en faut, hein, mais l'amour va fluctuer, le sentiment va fluctuer. Quand votre conjoint tombe malade, quand vous-même vous êtes fatigué, il n'y a plus du tout les mêmes émotions. Par contre, si au fond de vous-même, vous avez décidé d'être fidèle en comptant sur Dieu, c'est ça qui est le ciment d'un couple, d'un authentique amour, même de l'amour fraternel. C'est la fidélité à l'image de Dieu qui, lui, est fidèle. D'ailleurs, la racine en grec entre fidélité et foi, vous la retrouvez, la confiance. Pourquoi est-ce que nous sommes appelés des fidèles, d'ailleurs? L'expression même de quelqu'un fidèle, c'est quelqu'un qui agit en fonction de son identité, de ce qu'il a décidé de vivre, vivre à la gloire de Dieu. Et quand ça va mal, quand l'amour est en quelque sorte diminué ou affecté, c'est la fidélité qui va être le squelette qui va nous permettre de continuer. Et ça, c'est très important, parce que aujourd'hui, je vous donne un exemple, j'ai préparé un message pour une autre église, enfin une série pour une autre église, et c'était sur la personne du roi David. Alors on m'avait donné comme titre « David, un homme selon le cœur de Dieu ». Et du coup, je suis allé chercher dans différentes Bibles un petit peu la traduction, et ce qui m'a étonné, c'est les titres de chapitres concernant le moment où David commet un adultère avec un crime avec préméditation. Dans une Bible récente, Le chapitre, c'est pas la parole de Dieu, hein, ce sont les traducteurs qui ont décidé de donner un titre de chapitre à ce passage dramatique de la vie de David. Et qu'est-ce qu'ils mettent? Récemment, ils ont mis, enfin, dans la dernière traduction, ils ont mis double faute de David. Mais quand je suis allé chercher dans une Bible dans les années 70, c'est très intéressant de voir que le titre qui est donné à ce passage, c'est « Action criminelle de David envers Bathsheba et Uri ». Et là, en droit, c'est ce qu'on appelle le fait de qualifier une faute. Et j'ai été étonné de voir que dans les traductions plus récentes, on ne qualifie pas la faute, on ne la qualifie plus. C'est double faute. C'est pas qualifié, ça. Ça laisse une interprétation possible, une espèce de tolérance. Mais dans les anciennes Bibles, les têtes de chapitre, c'est action criminelle. Ça dénonce, ça qualifie donc le comportement de David comme étant criminel dans deux secteurs. L'adultère, qui est considéré comme un crime dans la loi de Dieu. Et puis évidemment le meurtre, qui par définition est un crime. Et là on voit que dans notre société, on glisse tout doucement dans une forme de tolérance, d'absence de qualification très serrée. Alors, il y a quelqu'un qui me disait, mais c'est normal, etc. Et j'ai dit, tu as cité un verset tout à l'heure, qu'il n'y a en Dieu ni changement ni ombre de variation. Et tu as pris aussi Hébreu, l'Éternel est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je lui dis, crois-tu que la qualification des péchés par Dieu soit question de notion d'époque? Je lui dis, puisqu'il n'y a pas de changement chez Dieu, c'est toujours ça. Il dénonce le péché, il dénonce la faute. Et donc nous, quand on pense à amour dans la communion de l'Église, à aimer ardemment, c'est réfléchir profondément. Quelle est la valeur de mes actes aux yeux de Dieu par rapport à ce que Dieu enseigne dans les Saintes Écritures? Quand Paul dit dans l'Épître aux Romains, haïssez le péché, ayez le mal en horreur, c'est-à-dire le péché en horreur. Mais quel écho ça a chez moi? Et quand je vois comment c'est traduit dans des traductions plus récentes, c'est amoindri. La traduction amoindrit la pensée divine. Donc faisons attention, parce que Dieu, lui, ne change pas. Et c'est pour cela que des fois, il me semble qu'il y a beaucoup de soucis dans les églises, faute d'avoir la capacité de qualifier les choses, qui rend à chacun d'entre nous les situations claires. J'agis mal ou j'agis bien? Et puis, pas essayer de rajouter autre chose. Et c'est comme ça qu'on va être ensemble, repris, construit, parce qu'on va demander pardon à Dieu, reconstruit et qu'on va apprendre à vivre véritablement sous le regard de Dieu, par la puissance de son Esprit Saint, dans ce qui s'appelle la justice, la sainteté, telle que Dieu l'attend de nous. Une église rayonnante est une église où règne un esprit de service, avec un désir d'édifier, de servir la communauté. Hein, édifiez-vous les uns les autres. Il y a 47 ans que je suis chrétien, que le Seigneur m'a sauvé, et je repensais aux premières années de ma vie chrétienne, enfin aux premières décennies de ma vie chrétienne. Mais tous les jeunes que nous étions à cette époque-là, on avait une attitude qui était, dès qu'on se rencontrait, on se mettait à prier, on se mettait sous le regard de Dieu, sous l'autorité de Dieu. On y est naturellement, on est chrétien, donc on est sous le regard de Dieu et sous son autorité, mais volontairement, dès qu'on se rencontrait, on priait. Seigneur, merci, conduis nos paroles, conduis nos échanges, etc. Et puis, de quoi est-ce qu'on parlait? Des Saintes Écritures. Je me souviens, on passait notre temps, as-tu lu ça, comprends-tu, etc. Et aujourd'hui, je me rends compte que depuis quelques années, c'est plus flou, cette attitude-là. C'est plus, comme m'a dit un jeune, c'est cool, on est cool. Alors c'est sympa d'être cool, moi, j'aime bien, mais la profondeur, la conscience de qui nous sommes et devant qui nous nous trouvons, c'est très important. On doit s'édifier. Pourquoi? Parce qu'on se regarde les uns les autres. Moi, je regarde mes frères et mes sœurs me regardent. Et c'est ainsi, c'est comme ça. Et où on est un exemple, où on est un contre-exemple. Et toute la joie de servir Dieu selon sa volonté, c'est inestimable cette joie. Cette joie de par la grâce de Dieu, de marcher dans la sainteté, dans la vérité, dans la pureté. Et c'est ce qui va permettre d'édifier la communauté. Regardez le nombre de communautés où ceux qui parlent ont perdu leur autorité parce qu'ils ont des attitudes bizarres, en tous les cas répréhensibles. Donc nous sommes là pour édifier la communauté, construire la paix à l'intérieur de l'Église et à l'extérieur, avec nos contacts non chrétiens. Et puis il y a un désir de se tourner vers les autres, comme je disais, pour la gloire de Dieu. L'Église doit s'édifier, annoncer l'Évangile, transmettre la parole. Mais si l'Église doit parler, elle doit aussi servir à l'intérieur comme à l'extérieur. Voilà ces quelques versets qui nous rappellent les paramètres qui, selon Dieu, vont développer une Église rayonnante. Ce que j'ai fait avec vous cet après-midi, c'est ce qu'on appelle l'ABC de la vie chrétienne. C'est vraiment la base, le socle, le fondement. Mais c'est sur le fondement qu'il faut construire. Donc réfléchissons devant le Seigneur, mais plaçons-nous devant lui, à titre individuel, peut-être communautaire, et puis, en tous les cas individuellement, demandons à Dieu de vivre ces quatre paramètres spirituels pour avoir une vie rayonnante et une Église rayonnante. Amen.